Claude Askolovitch, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Dans la revue de presse, le sourire de Jean Rochefort ce matin pour commencer.
Et ce sourire faussement timide et ses yeux qui t'allument. La presse, c'est une maison joyeusement endeuillée ce matin quand on regarde les photos d'un oncle qui vient de partir et on ne sait pas vraiment être triste. L'oncle de province, dit le Parisien, qui vous voit Jean Rochefort à sa une. Vous allez nous manquer, mais le tutoie en page intérieure. Entreras-tu là-haut comme tu entras sur scène en dansant le jour où tu reçus un César d'honneur? Il est Jean Rochefort à chacun d'entre nous, le gentleman facétieux du Figaro, l'élégance du désenchanté de la Croix. C'est aussi cela, les veillées de deuil. Chacun l'a connu. Il avait, savez-vous, étudié le théâtre à Nantes, nous dit Presse-Océan. Presse-Océan qui a retrouvé un ancien professeur du conservatoire nantais qui avait connu Rochefort, un jeune homme vif et insaisissable, indiscipliné et turbulent, et qui avait quitté Nantes fâché. Voilà, ce matin, au-delà même de votre journal favori que vous achèterez en kiosque, allez fureter sur le web, il était moderne aussi Rochefort, pour trouver des pépites et peut-être aussi des regrets. C'est courageux les regrets. Dans Libération, le critique de cinéma Didier Perron prend la parole au nom de sa discipline, une discipline artistique que Rochefort avait négligée. Il avait raté la modernité, il avait raté la nouvelle vague, il avait raté René. Rochefort, écrit Perron, a moins choisi ses films qu'il ne les a subis. On sait par avance, l'éléphant barille un peu partout dans les journaux, ce qu'opposeront à la thèse de Perron les amoureux du cinéma populaire. Mais enfin, dans Libé, on rappelle que Rochefort savait se moquer de ses films alimentaires. Les enfants et les chevaux, il faut que ça mange. Et il trouvait sa vérité sur les planches. Quand je tournais Angélique, marquise des Anges dans la journée, je jouais Harold Pinter le soir avec Delphine Seyrig. Et oui, Rochefort était du théâtre et sa disparition ranime cette merveilleuse distinction entre le théâtre et le cinéma et le mystère de l'acteur. S'il n'est qu'un article à lire pour aller un peu plus loin, c'est dans Libération, celui de Jos Houben, grand metteur en scène de théâtre belge qui prolonge. Jean Rochefort reste invariablement un acteur de théâtre dans le sens où il sait focaliser l'attention sur le moindre geste. Rochefort paraît perpétuellement étonné, stupéfait d'être plongé dans son environnement, et Houben décrit le corps de la marionnette Rochefort. Plexus verrouillé, menton tombé, poil légèrement en arrière du corps, bras archi-conscient et investi, et formidable lenteur du regard. Son visage est un masque qui parle dans le silence. Voilà Nicolas, nous aussi, désormais, parlerons dans le silence de Jean Rochefort.
Une prise de pouvoir, Claude, dans l'industrie, racontée également dans la presse ce matin.
Et c'est une forme de tragédie racontée par les Échos. Je cite, General Electric cède à la pression, met un genou en terre. Explication, General Electric va faire entrer à son conseil d'administration un représentant de Trian, un fonds d'investissement qui a mis 2,5 milliards de dollars et veut maintenant sa rentabilité, que l'action remonte. Les Échos font le portrait de Lenson Pelt, c'est le propriétaire de Trian, autodidacte, fan de hockey, qui pèse 1,7 milliard de dollars. Il tient General Electric, il peut prendre le pouvoir aujourd'hui chez Procter & Gamble. Ces raids, nous disent les Échos, se sont soldés par 100 000 licenciements. Pourquoi en parler? Eh bien tiens, c'est un dossier que notre invité d'aujourd'hui a connu. C'est General Electric qui a racheté en France les activités énergie d'Alstom. Vous le voyez Nicolas, l'économie c'est une affaire de pouvoir. Parfois, le pouvoir est aussi bénévolant. Hier, un seigneur, Tim Cook, le patron de Apple, était en Normandie, à Hérouville-Saint-Clair. C'est dans Ouest-France. Bravo, c'est génial ce que vous avez fait pour nous, a dit Tim Cook au patron de Eldim. C'est une entreprise française qui a inventé pour Apple une technologie de reconnaissance faciale qui est au cœur du nouvel iPhone. Explication du journal. Quand vous regardez votre téléphone, il s'allume. Merveilleuse histoire contée par Ouest France, mais elle raconte aussi un rapport de force. Hier, après Eldim, Tim Cook est allé se recueillir dans un cimetière militaire américain avant de voir le président Macron pour parler de fiscalité. Voilà nos empires.
Et puis, l'économie, Claude, se vit aussi à hauteur d'homme.
Et le social également, ce jour de grève des fonctionnaires, où nos journaux parlent tantôt union syndicale et enjeux politiques, les fonctionnaires appelés en renfort contre la politique de Macron, c'est le Figaro, tantôt préfère regarder des individus, c'est le choix de l'humanité qui nous offre des portraits d'agents en lutte et en souffrance afin que nous puissions nous identifier, s'identifier. C'est aussi la clé du prix Nobel d'économie décerné hier à l'américain Richard Thaler. Richard Thaler qui, nous dit Slate, rappelle que les acteurs économiques ressemblent plus à Homer Simpson qu'à Superman. Explication, Thaler, c'est l'homme de l'économie comportementale, de la théorie du nudge, littéralement le coup de pouce, ce qui nous fait changer d'attitude. Exemple, toujours dans Slate. Au début des années 2000, à l'aéroport d'Amsterdam, les dirigeants avaient posé sur les urinoirs des fausses mouches. Résultat, les dépenses de nettoyage ont baissé de 80%. Pourquoi ? Les hommes ne faisaient plus pipi à côté, ils étaient incités à viser la mouche. Vise la mouche pour l'économie, les camarades.
Et une bizarrerie, une autre, mais anachronique, celle-là pour finir.
Très curieuse, dans un étrange endroit, les pages immobilières du Figaro sur le web qui plonge le Figaro dans le passé pour vouloir nous dire quelque chose d'aujourd'hui. Je cite, « Il y a 75 ans, la France perdait la bataille de la production face à l'Allemagne. » 75 ans, tata. Oui, ça donne 1942, donc sous l'occupation nazie en France. Mais le Figaro y voit une éternité et oppose, je cite, « une Allemagne particulièrement réactive et performante à une France engluée dans ses lourdeurs administratives. La preuve, ajoute le Figaro, par deux articles de l'époque. D'un côté, un éloge funèbre de Fritz Todt, qui était l'homme de la ligne Siegfried et du mur de l'Atlantique, l'ingénieur bétonnier du Troisième Reich. De l'autre côté, un compte-rendu du procès de Rion, où le régime de Vichy avait fait juger la République. Tout ceci est présenté sans aucun recul, comme si un procès politique ou l'éloge d'un dignitaire nazi était des sources fiables pour aujourd'hui. On a ici, loin d'un procès politique que nous ne voulons pas faire un journal, le vertige plutôt des incongruités et des comparaisons anachroniques. Tiens, la semaine dernière, un historien invité par Libération avait comparé l'esprit de sacrifice d'un soldat français de la guerre de 1914 à celui de Mohamed Merah. Il avait fini, heureusement, l'historien par s'excuser. On devrait donc laisser l'histoire tranquille ou alors la choisir avec goût. Tiens, on va se réconcilier avec le Figaro qui reproduit aujourd'hui une critique littéraire de 1947. À l'époque, le grand journal de droite encensait le roman d'un communiste Louis Aragon, Les Voyageurs de l'Impérial, et écrivait ceci. Aragon écrit une langue admirable, une des plus belles, des plus souples, des plus intelligentes d'aujourd'hui, et cela fait tout ou presque passer. Voilà Nicolas, il faudrait ne pouvoir écrire que sur les livres ou sur les comédiens.